salut, bienvenue dans le second podcast de la librairie La Bande Dessinée. On est toujours au 50 Grande Rue de la Croix-Rousse, on est toujours dans le 4ème 69004. Vous pouvez toujours retrouver toutes les infos sur toujours le même site, www.labd.net. Si vous avez écouté le premier podcast qu'on avait posté fin du mois d'octobre, en fait c'était une chronique pour se différencier des coups de cœur que vous pouvez retrouver sur le site coups de cœur écrit. Et en fait on va essayer de faire ça plus ou moins régulièrement, à chaque fois vous présentez une chronique sur un thème donné, où tous les libraires présents à la chronique présenteront tour à tour un titre en particulier.
Et donc là, la question me brûle les lèvres. Quel est le thème du jour ?
Eh bien alors, il y a parfois des injustices. En bon lyonnais, on peut se rappeler que, par exemple, le 13 avril 2005, face au PSV Eindhoven, il y avait pénalty sur Nilmar.
Il y avait pénalty.
Tout le monde s'en rappellera. De manière un peu plus locale, par exemple, mettons à la Croix-Rousse, très beau quartier. Imaginez que vous êtes en pause, un petit peu en décalé, à 14h. Vous recherchez un sandwich, il y a des super boulangeries, il y a le Moulin de Léa à côté. Bon, moi, ma crèmerie, c'est le fournil des artistes, mais il y a de super boulangeries. Et vous êtes en décalé. Pam, 14h, vous arrivez dans la boulangerie, plus de sandwich. C'est une injustice.
C'est dégueulasse.
Même certains diront le fatum, le destin fatal. Et voilà.
La vie est dure quand même.
Pour recentrer un petit peu ça sur la BD, il y a parfois des injustices aussi. Alors évidemment, le contexte est un peu plus sérieux que ça, parce qu'avec le confinement, bah, il y a vraiment des problèmes. Bah, autant tout le monde est touché, libraires, éditeurs et même auteurs. Mais si on enlève l'année 2020, le marché de la BD en France marchait plutôt bien, surtout si on compare ça aux pays européens un petit peu à côté. Notamment en termes de chiffres, en 2019, la BD c'était en 4e position du marché éditorial. Et il y avait, en ordre d'idée, plus de 10 000 nouveaux titres qui sortent chaque année en France. 10 000 en chiffres, c'est si on englobe aux BD franco-belges, comics, manga. Voilà, du coup le marché se porte plutôt bien. Mais vu qu'il y a énormément de titres qui sortent chaque année, c'est parfois compliqué pour que tous les titres aient la même mise en avant. Alors c'est aussi un peu notre boulot à nous en tant que libraire d'essayer de donner les chances à chacun des titres. Alors parfois on arrive à mettre en avant des titres qui des fois viennent d'auteurs un peu moins connus ou d'éditeurs un peu moins connus et c'est cool. Mais malheureusement, le fait est qu'il y a énormément de titres qui sortent tous les ans et parfois il y en a qui se passent un peu à côté. Tout ça pour dire que ce soir, on va vous présenter des auteurs qui, à notre sens, sont injustement méconnus. Donc du coup, comme d'habitude, chacun des libraires va présenter tour à tour un titre, on va faire un petit tour de table, et puis après la chronique sera terminée. Donc on va tout de suite commencer par un manga, c'est Andy qui va nous présenter ça.
Bah bonsoir, moi ce soir je vais parler de GTO, plus sérieusement je vais parler de Tokyo Revenger. Pour moi c'est un peu l'héritage, l'héritier de GTO. C'est fait par Ken Wakui, ça a commencé à sortir en 2017 au Japon, nous on a eu le droit de l'avoir que plus tardivement en 2019. Et pour moi, en fait, c'est un peu le nouveau manga qui m'a vraiment scotché. C'est un shonen chez Glénat. Et en gros, c'est l'histoire d'un gars qui passe un peu une journée pourrie. Il voit à la télé la copine qu'il avait au collège, qui a été sa seule copine de sa vie. Bah, elle s'est fait descendre dans un règlement de compte de Yakuza. Il passe une journée pourrie au boulot, il se fait rabaisser. Il glisse devant un métro et le métro passe. Il meurt pas, hein, il voit pas des nuages et des jolies portes dorées. Non, lui, il se retrouve dans son corps du collège, à l'époque où c'était ce qu'on appelle un furio. Les furios, c'était les bastonneurs japonais, on va dire, qui étaient assez à la mode dans les années 90. Et en gros, c'est un manga qui parle de ça, qui parle de ces furios, de ces gars qui étaient à fond sur la baston, et surtout de ce garçon qui va essayer de corriger le futur en faisant des allers-retours entre présent, passé, futur, on sait pas trop, tout va changer. Et c'est trop bien. C'est assez dramatique, c'est assez fun, il y a beaucoup d'action, et je pense que c'est la série où j'attends le plus à chaque fois les prochains tomes. C'est un manga aussi qui a eu un super prix, il a eu le prix Kodansha à la 44e édition, donc là il y a en 2019, ce qui est plutôt un bon prix au Japon, prix un des meilleurs shonen.
Eh ben merci Andy. Un petit mot pour revenir sur la série Tokyo Revenger. Il y en a déjà plus au Japon. Au Japon, ils sont déjà à 19 tomes. Donc là, nous, on arrive bientôt à la dizaine. On est à 9 tomes en France. Mais c'est vrai que c'est un manga qui démarre plutôt bien. Je pense que ça va peut-être même redoubler encore parce qu'il y a un animé qui arrive en 2021. Et ce que j'ai trouvé très sympa, en fait, la manière dont était amenée la série, je trouvais que ça apportait vraiment quelque chose d'un peu neuf, notamment au Furio. Donc le Furio, comme tu disais, bah, c'était GTO. Même avant, il y avait Rakai Blues aussi de Morita qui fait ça. Et souvent, c'était vraiment de la bagarre. Alors GTO, déjà, ça a changé un petit peu, parce qu'il y avait un peu des chroniques sociales, des choses comme ça. Mais ce qu'il y a de sympa dans Tokyo Revenger, c'est que lui se mélange avec le genre fantastique. Dès le départ, il va avoir des histoires de voyage temporel, et c'est clairement assumé. Donc voilà.
Ça fait envie.
Maintenant, on va passer au deuxième d'entre nous. C'est Simon qui va nous présenter une BD, et voilà, c'est à toi.
Allez,
Eh ben, je te remercie, Nico.
Je vais vous parler d'une bande dessinée qui n'est pas véritablement une bande dessinée qui est passée inaperçue, parce que c'est quand même une bande dessinée qui a déjà eu plusieurs prix, mais une bande dessinée qui est, à mon goût, injustement méconnue. Il s'agit de La Main Verte, de Nicole Clavelou, avec la collaboration d'Edith Za. C'est une bande dessinée qui est parue, bah, écoutez, quasiment jour pour jour, il y a un an, aux éditions Cornelius, c'était sorti le 5 décembre. Et La Main Verte est en fait un recueil d'histoires de Nicole Clavelou qui vont couvrir ces histoires, la période qui va de 1976 à 1980, c'est-à-dire un moment où il y avait véritablement une explosion de la bande dessinée pour adultes. Les 11 histoires qui composent La Main Verte sont parues dans deux magazines de bande dessinée qui sont légendaires. Le premier, c'est évidemment Métal Hurlant, le mythique magazine des Humanos, qui avait été fondé par Jonet, Druyer, Mebius, enfin une bande de gars qui sont tous devenus, et qui étaient déjà, mais qui sont tous devenus des légendes de la bande dessinée. Et d'autres histoires qui sont parues également dans un journal tout aussi mythique, nettement moins connu malheureusement, le magazine Hanana, qui est paru sur une période très courte en fait. Il a été très très rapidement éreinté par la censure. Il a été interdit ensuite à la jeunesse, hein. C'était un magazine qui a été réservé aux adultes et qui est mort dans la foulée d'ailleurs, parce qu'évidemment ça a réduit beaucoup son lectorat. Et ce magazine Hanana était le premier mag de BD dont la rédaction était entièrement réalisé par des femmes. Et l'équipe était une équipe d'autrices. Il y avait à chaque fois un auteur invité, mais il y avait des autrices qui sont, pour certaines, restées célèbres, hein, dont Nicole Clavelou, ou la réalisatrice Sota, qui a réalisé le graphique de Boscope.
Voilà. Alors, private joke, c'est l'un des films préférés, c'est le film préféré ?
C'est le meilleur film comique français, c'est aussi simple que ça.
Voilà, il vient de sortir en DVD, enfin il est sorti il y a un an, après 30 ans passés en salle.
Voilà, et donc le magazine Hanana avait été créé, quand même c'est important, par Jeannick Guilherez, qui est devenue ainsi l'une des premières femmes directrices de magazines de BD. Alors La Main Verte, je vous ai dit, c'est un recueil de 11 histoires. Je vous ai dit aussi qu'il avait eu un certain nombre de prix, hein, puisque l'année dernière, cet ouvrage en particulier a reçu le prix du patrimoine. Heureusement, on s'est très vite rattrapé dans la foulée par le prix du matrimoine, Artemisia, parce que faut pas oublier que Nicole Clavelou est une autrice qui s'est fait une place dans le monde de la bande dessinée à une époque où 99% des auteurs étaient des hommes. Et la carrière de Nicole Clavelou a aussi été récompensée par un fauve d'honneur. Donc l'une des récompenses les plus prestigieuses qu'on puisse avoir en bande dessinée. Donc La Main Verte, c'est un recueil d'histoires courtes, mais certaines histoires sont à lire ensemble. En fait, elles forment deux touts, celles qui sont parues dans Métal Hurlant d'un côté et celles qui sont parues dans Hanana de l'autre. Celles qui sont parues dans Métal Hurlant vont raconter une histoire, donc c'est dans l'ordre La Main Verte, L'Herbe Noire, La Nuit Blanche, La Peur Bleue et Les Baraques Mauves, et qui vont raconter une histoire, une sorte de trio amoureux, une relation entre une femme, un vieux corbeau et une plante verte. Alors oui, effectivement, à l'époque, ça carburait beaucoup à l'acide. Ça se sent. Et c'est complètement jouissif. Ce sont des planches qui ont été reproduites dans la bande dessinée d'après les originaux, donc avec une qualité d'édition qu'on n'avait jamais eue en fait. Elles avaient d'abord été publiées une fois en 78, et puis plus depuis. Donc on est sur une sorte de trip chamanique qui va mener cette jeune femme par monts et par vaux jusqu'à ce qui peut ressembler du plus près à la liberté. Et les autres histoires, celles qui sont parues dans Hanana, sont en fait des parodies complètement irrévérencieuses des contes de fées. Donc on va avoir par exemple Planche-Neige, oui, parce qu'elle n'était pas épaisse, La Connasse et le Prince Charmant, personnellement, que j'adore, et puis la très fameuse histoire de Blondasse, de Belle Biche et de Gros Chacha. Quand je vous disais que c'est parfois très... Enfin, que le magazine Hanana a été éreinté par la censure, c'est parce que c'était très très irrévérencieux. Faut imaginer que ces histoires ont été publiées dans des magazines, entre autres, qui étaient consacrés à l'inceste ou à la sexualité des petites filles. Voilà, ce qui explique pourquoi la censure des années 70 a un petit peu fait la gueule. Et malheureusement, pour le monde de la BD, c'est ça qui a provoqué la fin de ce magazine. Mais on a quand même eu le temps d'avoir un certain nombre d'histoires toutes plus magnifiques les unes que les autres. Pour info, il y a eu d'autres bandes dessinées là qui sont parues chez Cornelius. En fait, Cornelius est en train de rééditer tout simplement l'intégralité des bandes dessinées pour adultes de Nicole Clavelou. Je dis pour adultes parce qu'il faut pas oublier que Nicole Clavelou a aussi commis en son temps Les Aventures de l'Épouvantable Grabote et du Lion Léonidas, qui était publié dans Okapi pendant des dizaines d'années et qu'on espère aussi voir rééditer un jour. D'ailleurs, pour rebondir un petit peu là-dessus, c'est vrai que Nicole Clavelou s'est quand même pas mal éloignée aujourd'hui de la bande dessinée. Elle fait pas mal de peintures. Je vous encourage à aller voir ses tableaux. Elle a aussi illustré pas mal de romans érotiques. Elle a entre autres fait une magnifique version de La Belle et la Bête qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Et quand même, parce que le monde de la BD a été un peu lent à lui rendre justice, mais ça s'est fait quand même, elle a eu le droit à une très belle rétrospective à Angoulême l'année dernière.
J'embête un petit peu tous mes collègues quand je leur demande de faire un choix sur le titre qu'ils vont présenter, de se limiter à un choix. Je sais que c'est compliqué, notamment Simon. Enfin, finalement, il l'a très bien fait, mais c'était un petit peu compliqué de choisir un titre parmi la bibliographie de Clavelou. Alors moi, ça va être pareil. J'ai choisi de présenter le dernier titre de Nicolas Prel, donc c'est Les Jardins de Babylone, qui vont me servir en fait à défendre toute la carrière, l'intégralité de son œuvre, parce que je trouve que c'est vraiment un auteur remarquable. Je connais son boulot depuis 3-4 ans, et je crois qu'en 3-4 ans, c'est devenu mon auteur préféré. Je trouve que tous ses boulots sont absolument fascinants. C'est un auteur qui n'a pas non plus sorti énormément de livres. Il en a sorti 9, dont 8 chez Atrabile, qui est forcément un peu moins, pas reconnu, mais en tout cas qui a un catalogue moindre, qui sort moins de bouquins par an qu'un Glénat, qu'un Delcourt, qu'un Dargaud. Par contre, c'est quand même un éditeur de qualité, parce que quand on voit les auteurs qui publient, auteurs et autrices qui publient chez Atrabile, il y a quand même du beau monde, Manuel Fior, Frédéric Peters, Jason, et même l'année dernière, parce qu'il y a Le Fauve d'Or, Emily Gleeson, Ted...
Tête drôle de coco.
Ouais. Il a eu un prix, mais c'était le prix d'or.
Le prix des meilleurs albums.
C'était le prix du meilleur
album. Meilleur album,
je crois. C'était pas. Non, c'était pas.
Non, c'est Révolution.
C'était Ferris. Ouais. Non, c'était il y a 2 ans.
Donc, alors, prix de la révélation.
Ouais, c'est Révélation.
Ouais. Ouais. En tout cas, c'était vachement bien.
En plus, tu vois, même quand il sort.
Il est sorti depuis une BD sur Vicage de Rasso. Je tiens à le préciser. Vicage de Rasso au scénario et Emily Gleeson au dessin, ouais. Et c'est vachement bien.
Même voilà, quand Atrabile sort des auteurs un peu moins connus, force est de constater que c'est quand même des albums de qualité. Pour en revenir à Nicolas Prel, il y a un autre truc qui fait que, à mon avis, son œuvre est peut-être un petit peu moins connue, du fait que ses albums sont des albums entièrement muets. Peut-être on souffre encore de ce fait-là que dès qu'on va avoir, en tout cas, des lecteurs vont voir un album entièrement muet en librairie, vont pas forcément foncer dessus. Ça va être un petit peu l'antithèse de du roman graphique. Alors le roman graphique, c'est à mon sens un mot un peu galvaudé, mais qui s'est imposé au fur et à mesure.
Oui, on pourrait dire des choses sur cette appellation.
Il y a plusieurs définitions. Moi, j'appelle un roman graphique une BD épaisse, mais, mais en fait, il y en a qui disent oui, mais c'est quand il y a autant de texte que d'images. Après, comment on quantifie ça, c'est compliqué. Enfin bref.
Oui, et pourquoi vous leur ramenez ça au roman, alors que la bande dessinée est un art tout à fait noble aussi.
On va pas faire le procès du roman graphique, mais ce qui est un peu d'ennuyeux avec, avec ce mot-là, c'est qu'en fait, on va utiliser le terme roman pour vous dire... C'est pratiquement de la vraie littérature.
Vous ne serez pas concours.
C'est un vrai livre.
Voilà, on va avoir des lecteurs DVD qui ne lisent pas de la BD, qui lisent uniquement des romans graphiques. Et là, justement, Nicolas Prel, c'est l'inverse de tout ça, parce qu'il n'y a même pas de texte. Il n'y a pas de texte du tout, donc souvent...
Donc c'est un graphique.
De Bosca, c'est ça que tu voulais dire. On va voir une BD sans texte, on va se dire mais je vais pas mettre un billet pour un truc qui se lit en 2 secondes, comme si en fait quand il n'y avait pas de texte, c'était juste des images à parcourir rapidement et voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus à chaque fois que lui va utiliser du texte dans son œuvre, ça va être vraiment un procédé graphique. Et au-delà de ça, c'est vraiment des BD qui ont vraiment des scénarios et des scénarios assez poussés. Ça va être des fois des narrations à plusieurs voix, notamment dans le dernier, ça va être une fable écologique. C'est la première fois où il va amener ça sur de la science-fiction, parce que ça va se passer à la fois sur la planète Terre et à la fois sur la Lune. Ça va parler d'écologie, parce qu'on va à la fois parler de l'exploitation de l'eau sur Terre pour des ultra-riches sur la Lune. Et en fait, à travers ça, il va parler de plein de choses différentes. Mais il ne va pas utiliser de mots. Mais en fait, quand une BD a du texte, texte et images, c'est vrai que le dessin, des fois, sans se reposer, mais peut se permettre, forcément, de pas tout raconter, ou entre guillemets, peut se permettre des maladresses, si on veut, mais peut accepter une maladresse du dessin qui dise mal quelque chose, qui va être rattrapé par le texte. Tandis que chez Nicolas Prel, vu qu'il n'y a pas de texte, l'un des avantages, c'est qu'il peut pas avoir de phrases maldites. En revanche, le contre-coup, c'est qu'il faut que le dessin soit nickel, dans le sens, il faut que le dessin raconte tout, qu'on comprenne tout, ou quand il nous raconte pas quelque chose, que ça soit pas cryptique, mais que ça serve au récit. Et Nicolas Prel, c'est un génie par rapport à ça, parce que son dessin, chaque case est construite et on va tout comprendre. Qu'est-ce que je voulais dire
Ce que tu veux dire au bout du compte, c'est que malgré le fait qu'il n'y ait pas de texte, c'est quand même très littéraire.
Et pour la quatrième BD, c'est Quentin qui va nous la présenter. C'est à toi.
C'est mon Jawan. C'est Alors, donc je vais parler d'un homme de goût, donc une bande dessinée qui est parue chez Ankama il y a maintenant 4-5 ans, je pense. Donc,
2014.
Donc, qui était paru des premiers lieux en 2 tomes, et puis après qui a eu une intégrale, qui est très sympathique. Les deux auteurs sont Cha et El Diablo, et ça raconte en fait l'histoire d'une policière, d'une ex-policière, qui s'appelle Jamie Colgate, et qui recherche un homme qui est une sorte de tueur en série, qu'elle recherche depuis des années, avec qui elle a déjà eu un passé, puisque cet homme l'a déjà failli l'assassiner. Il a tué son chien, elle lui en veut énormément, et ça fait des années qu'elle essaye de le retrouver. Le truc, c'est que cet homme se cache très bien, un parcours très erratique et extrêmement difficile à retrouver, et de plus, c'est quand elle plonge un peu dans le passé de ce gars, elle se rend compte qu'en fait, ça fait peut-être quelques années qu'il sévit, et peut-être même beaucoup plus de temps que ce qu'on pourrait penser d'un humain normal. Et elle finit par le retrouver, le ligoter, réussir à le taser, en fait, le ligoter dans sa cave, et elle va commencer à l'interroger. Et en fait, on va suivre un peu un dialogue entre ces deux personnages, donc cet ex-flic et ce tueur en série qui doit bien faire son 2 mètres de haut et peser ses 100 kilos. Enfin, c'est un gros gars. Et ça commence comme ça. Et après, donc, pour la suite, ben, je vais divulgâcher un peu. Donc, si vous voulez pas savoir la suite de la bande dessinée, passez quelques secondes. Je pense que ça suffira. En gros, cet homme lui révèle qu'il n'est pas vraiment humain, qu'il est plutôt un ogre, et qu'il a une vie qui est extrêmement longue. Et du coup, ça fait des années qu'il parcourt le monde et qu'il dévore des gens sans jamais s'arrêter. Et du coup, en fait, on va passer par plusieurs, enfin, expliquer sa vie, et on va passer par plusieurs flashbacks, par plusieurs souvenirs de cet ogre, qui raconte, enfin, à plusieurs moments de l'histoire, les meurtres qu'il a pu commettre, ce qu'il a fait pour arriver à se cacher. Et du coup, on va le voir à Cuba dans les années 60-70, on va le voir en France au 19e siècle, en France ou en Angleterre, je ne sais plus. On va le voir dans l'Empire Ottoman, on va le voir pendant la période médiévale, en Chine, etc. Enfin, on va le voir à tout un tas de moments, et on comprend qu'en fait, ce personnage serait, peut-être pas le seul, mais en tout cas, représenterait tous les personnages qu'on a pu voir dans les contes, mais aussi dans les trucs Inca, par exemple, dans la mythologie grecque avec les personnages comme Chronos, etc. Et on se rend compte qu'en fait ce personnage voilà parcourt les siècles et dévore tout sur son passage et que peut-être il a un destin encore différent. Alors il y a plusieurs choses qui font qu'elle est vraiment réussie, je trouve, c'est que notamment tous les flashbacks dont j'ai parlé sont toujours dessinés de manière différente, c'est-à-dire que vous avez le présent qui a un dessin d'un style bien particulier. Mais chaque flashback prend un type de dessin qui aura un rapport avec la période dans laquelle on se trouve. Quand on est, par exemple, en Europe au 19e siècle, on a un côté très journal du 19e, avec un côté vieux dessin de papier, etc. Un côté un peu page vieillie. Quand on est dans l'Empire Ottoman, on a une sorte de fresque ottomane, un peu musulmane, etc. Et c'est très beau. Et en fait, à chaque fois, voilà, chaque période comme ça est entrecoupée par ces petits passages historiques. Et avec un dessin qui fiait à cette période, et j'ai trouvé ça très réussi et très prenant, et ça permet de rentrer complètement dans l'histoire. Voilà, et du coup, ce qui est très bon aussi dans cette bande dessinée, c'est qu'on a certes un côté horrifique avec ce personnage qui est un ogre, mais aussi très humoristique, parce qu'il se retrouve toujours dans des situations affreuses, il réussit toujours à s'en sortir en étant le pire des personnages, et c'est une atmosphère qui me rappelle beaucoup. Comment dire ? Moi, ça aurait été une bande dessinée que j'aurais bien vue en film, par exemple, si je pouvais un jour réaliser un film, j'aimerais bien réaliser cette bande dessinée, enfin, le scénario de cette BD. Ça me fait penser un peu à du Burton par certains aspects, parce qu'il y a un côté un peu horrifique mais à la fois drôle, etc. Enfin voilà, je sais pas comment définir ça mieux. C'est une bande dessinée qui est à la fois drôle mais qui réussit à rester horrifique quand même. Alors sur l'intégrale, il est marqué que c'est un cycle 1. Alors à ma connaissance, il n'existe pas encore de cycle 2. J'espère qu'il y en aura un. L'histoire peut certes continuer, mais la fin de celle-ci est très réussie. Voilà, donc je vous conseille volontiers Un homme de goût qui, je sais pas s'il n'est pas très connu, elle se trouve encore assez facilement, donc je vous invite à l'essayer. C'est très prenant. Voilà.
Je trouve que l'intégrale rend beaucoup plus justice en fait à ce qui se passe à l'intérieur de la BD
que les tomes précédents. Les couvertures, alors pour vous donner un peu l'image, parce que là vous ne voyez pas l'intégrale, peut-être que vous aurez les couvertures, on dirait, sur le podcast. En fait, on a plein d'images de tableaux classiques qui mettent en scène des ogres, en fait, des ogres ou des hommes qui mangent d'autres gens, enfin des cannibales, et c'est toujours la tête de ce personnage qu'on retrouve, et c'est tout à fait l'idée qu'on retrouve dans cette bande dessinée. Et c'est vrai que par contre, sur les deux tomes précédents, les images étaient beaucoup moins parlantes. Vous voyez ces deux mains avec des couverts qui mangeaient une assiette avec une main humaine à l'intérieur. Simon qui tapotait sur le portable vient de remarquer, alors je le dis pour Un homme de goût, apparemment le tome 3 est annoncé.
Homme de goût, ouais. Chat a publié
des images.
L'autrice de
Et vu les images, goût, moi, ça me fait extrêmement plaisir vu ce qu'on voit. Ça a l'air très cool. Donc je tenais à le dire. Pour redire quand même, Chahé et El Diablo ont quand même fait d'autres albums aussi qui sont très bons. Hein. On vous invite à les connaître, à vous les consulter, notamment Monkey Business et Pizarro Trip, qui étaient très bons albums aussi. Voilà.
Et ben merci Quentin. Et ben du coup on va passer au dernier. Ça va être Camille.
J'ai décidé de mettre en valeur Le Roi des Ribauds, déjà parce qu'il y a les deux auteurs, donc on fait une autre série que j'apprécie tout particulièrement et qui elle n'est pas forcément connue du grand public. Mais je trouve que parler de leur œuvre principale et une des plus connues, c'est plus intéressant pour montrer le boulot qu'ils sont capables de faire. Donc les deux auteurs, donc Vincent Brujas et Ronan Toulot, désolé si j'écorche Ronan Toulot, je ne sais pas comment ça se prononce, ont fait en fait une BD très chouette qui s'appelle Le Roi des Ribauds, qui se passe en 1194 à Paris. Donc en pleine période médiévale, sous le règne de Philippe Auguste, et on va suivre l'histoire d'un personnage assez énigmatique qui s'appelle le Triste Sire. Donc déjà un nom qui lui sied plutôt bien. Le Triste Sire, c'est un homme des bas quartiers de Paris qui est né dans la boue, comme il aime le rappeler. Il a grandi dans la rue et il a réussi à s'élever à la lame de son couteau. Et il a fini par devenir un des proches du roi, et notamment le garde du corps du roi, et aussi le protecteur de la ville de Paris. C'est pas un personnage forcément très connu à la cour du roi, parce qu'il aime rester caché. C'est un homme qui manipule très bien les gens, qui est un espion aussi à de rares occasions. Notre histoire commence au moment où ce fameux Triste Sire égorge de son couteau un marchand bordelais une nuit dans les bas-fonds de Paris. Grosse erreur qu'il va vite regretter, puisque le lendemain le roi le convoque et lui demande d'enquêter sur le meurtre justement du dit marchand. Notre Triste Sire, donc, qui ne veut pas perdre la face forcément devant le roi et qui n'a pas envie non plus de perdre l'attention que le roi lui accorde, va se retrouver à enquêter sur son propre meurtre. Chose qui peut paraître complètement folle, mais il va devoir se débrouiller pour essayer de dissimuler les traces qu'il a lui-même laissées. À travers ça, en fait, il y a toute une histoire aussi autour de la guerre qui est en cours entre Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste. Notamment, on va très vite comprendre, alors comme l'a dit Quentin juste avant, attention, si vous voulez passer quelques secondes, je vais divulgâcher pas mal quelques infos, histoire de vous donner un petit peu des bouts de viande à croquer pour le scénario. En fait, on se rend vite compte que c'était un piège mis en place par les Anglais qui essaient de semer la discorde au milieu de Paris pour essayer de briser le pouvoir français et essayer de ramasser quelques terres. Donc cette BD, elle s'étend pour l'instant sur 3 tomes. Alors on ne sait pas vraiment si la série est encore terminée puisqu'ils n'ont pas forcément pour l'instant prévu de suite, même si l'histoire laisse une ouverture pour un prochain titre peut-être. Moi, ce que j'ai trouvé très sympa et pourquoi est-ce que j'ai choisi cette BD, déjà l'intrigue est vraiment excellente pour le coup, il y a tout un tas de personnages, alors qui je pense sont fictifs, je n'ai pas vérifié, qui sont très intéressants, notamment autour de la pègre parisienne, tout un tas de revendeurs, d'assassins, de tueurs qui sont vraiment des personnages très sympas, pas forcément sympas mais sympas à découvrir en tout cas, aussi parce que les dessins sont vraiment magnifiques, pour le coup il y a un travail en termes de dessin qui est très bien réalisé, mais notamment toutes les scènes d'assassinat, les scènes de violence sont extrêmement bien dessinées, on le retrouve très bien dans la prochaine BD de parler juste après qu'ils ont eux aussi réalisé. Ils ont un don, enfin en tout cas le dessinateur Ronan Toulot a un don pour dessiner le sang, je suis désolé, c'est très très bien fait à chaque fois, c'est toujours des scènes qui sont extrêmement bien dessinées. Et aussi j'ai décidé de parler de cette BD parce que ça revient sur une thématique que en ce moment on retrouve pas mal en littérature, que je trouve très sympa, qui est le polar médiéval. C'est quelque chose qui revient en tout cas médiéval ou un polar, ouais voilà, le polar historique qui revient je trouve à la mode, notamment avec Jean-Philippe Jaworski, alors qui sera plus connu des adeptes de romans comme Le Pape de la fantaisie française, qui a écrit Gagner la guerre et qui est un roman qui a énormément marqué justement ce style. Et ben on retrouve un petit peu cet esprit là dans Le Roi des Ribauds. Voilà, donc c'est une BD que je voulais aussi vous présenter comme je l'ai expliqué, parce que il y a une autre série qu'ils ont fait il y a pas très longtemps qui est très chouette, qui s'appelle Iradei, que j'ai pour le coup beaucoup aimé, qui est aussi dans un esprit similaire. À la petite différence, on suit ce qu'on pense être l'histoire de la garde Varek, donc ces Normands et ces Vikings qui se sont engagés en fait auprès de l'empereur byzantin. Voilà, donc c'est vraiment une BD que j'apprécie tout particulièrement, et je pense que ça mérite d'être lu et relu parce que c'est une BD très sympa mais qui n'est pas forcément connue du grand public. Voilà.
Alors il y a ce duo d'auteurs qui ont sorti notamment pas mal d'autres choses, chez Akileos, il y avait toute la série des Blocs 109, les choses.
Très bonne
ça.
Série aussi. Hein.
Ils ont sorti aussi d'autres auteurs vachement connus, on pensera à Héraclès dans Édouard Court, qui est aussi quand même de la bonne BD. Et ce qu'il y a aussi intéressant pour essayer de rebondir sur les qualités du bouquin que tu présentais, notamment quand tu parlais de polar médiéval, j'avais lu une interview où les auteurs me disaient qu'ils s'étaient inspirés des Rois maudits, la série de Maurice Druon. Ouais. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Maurice Druon, c'est notamment l'une des inspirations de J.R.R. Martin pour Game of Thrones. Donc voilà, donc en fait,
il y a des choses qui se recoupent.
Si voilà. Vous enlevez le côté dragon,
notamment dans le deuxième tome, il y a avec ce gars qui est justement le chef des pauvres, enfin l'espèce de dirigeant des pauvres de Paris, qui est une espèce espèce de chaman un bizarre.
C'est pas pareil, mais
oui,
voilà.
C'est vrai. Ouais. Ah ouais, d'accord.
Par contre, c'est vrai qu'au niveau intrigue et coup bas dans un univers médiéval, c'est quand même vraiment de la bonne BD. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi de la BD qui va parler d'un contexte aussi, historique ouais. particulier.
Mmh, très intéressant.
On va avoir notamment bah, les personnages Richard Cœur de Lion. Il y a aussi une apparition d'Aliénor d'Aquitaine à un moment. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ça n'oublie pas que c'est une BD qui va nous raconter une intrigue. Ça va pas être un manuel d'histoire.
Tout à fait.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des. Il nous donne 2-3 bribes. Si on veut, c'est au lecteur qui va pouvoir aller
creuser derrière
ça. Mais il s'embarrasse pas à nous expliquer tout un contexte qui serait un peu lourd, hein, qui raconte son histoire. Et voilà. Mais non, ouais, j'ai trouvé vraiment c'était.
Non, c'est vrai que t'as raison. Ce qui est bien fait, c'est qu'en fait, d'un fait divers entre guillemets, parce que c'est juste l'assassinat d'un marchand, ça part sur en fait, on rejoint en fait l'histoire.
La grande histoire.
Ouais, c'est ça, la grande histoire qui est en fait le conflit anglais franco-anglais. Mmh. Et c'est super bien fait parce que de fil en aiguille, on comprend en fait que tout ça est lié et que à la base c'était juste une machination. Tout est lié. Lisez cette BD, s'il vous plaît.
Donc, après, c'est ce qu'il disait. Apparemment, le roi des ribauds, c'était vraiment une sorte de fonction qui a vraiment existé.
C'est ça. Ça a été supprimé pour info par Philippe le Bel, quasiment 200 ans plus tard.
D'accord.
Donc, c'est quand même une fonction
qui a perduré longtemps.
Ouais. Ben voilà, c'est terminé pour du coup ce second épisode.
Oh non, déjà.
Eh oui. Normalement, on va essayer de se retrouver en 2021 pour d'autres chroniques. Et voilà, et puis jusque-là, lisez des BD et à plus.
Et portez-vous bien.